Au commencement, il n'y avait que le néant. Puis, le Big Bang créa l'univers. Mais après plusieurs milliards d'années, de mystérieuses ondes bouleversent l'ordre. Au fin fond de la galaxie, oui, juste un peu à droite, là, le chaos reprend sa source dans Big Bang Station, le mercredi, sur IDFM Radio. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de Big Bang.
C'est Michel.
Clôturons 2025, c'est la toute dernière émission de cette année. Nous sommes sur IDFM Radio tous les mercredis jusqu'à 22h sur les
98 FM.
En bande FM, ouais. En Ile-de-France et en DAB+, aussi, et sur Facebook, Instagram, X, Internet, Android, encore Spotify, Google Podcast, Radio Public, au choix sur notre page, notre compte, notre site, notre appli Big Bang Station. Ouais. Aujourd'hui, c'est un best-of de cette année. Chaque chroniqueur a choisi son thème préféré. Petit Manu a choisi...
Alors moi, je me rappelle, enfin, c'est une chronique de Ponari, tu sais.
Non, le thème que tu as choisi.
J'avais dit quoi déjà, en fait?
Ah bah ça y est, il a oublié.
C'est l'émotion. Non, c'était sur... je crois que c'était les animaux.
Non.
Non, j'avais dit quoi?
C'est ce que tu portes jour et nuit.
Ah, les pyjamas, voilà, voilà. Les pyjamas. Ah, c'était
le pyjama.
C'est pas on avait fait une.
Alors, pourquoi pyjama. Ce thème-là, il t'a inspiré?
Oh, bon, parce que c'est vrai que je savais pas qu'on en parlait. Parce que je trouve ça un peu original. Comme ça, on a pris des tas de choses. Faire une chronique sur les pyjamas, alors là, franchement, si on m'avait dit qu'on allait en faire une, c'est intéressant. Quoi, c'est un seul type aussi.
Marie-Christine a choisi le thème des jardins.
Et oui, parce que je trouve qu'en hiver, faire son jardin, c'est pas si mal. Mais alors en été, quel bonheur.
Bon,
quel
bonheur. En été, c'est plus facile. Ponari, quel thème as-tu préféré cette année?
Alors moi, j'ai préféré être célibataire et les avantages. Ça m'a beaucoup fait rire de pouvoir la faire, de la rédiger, puis après de la partager à tous les auditeurs.
Et Kevin?
Bah moi, j'ai préféré le terme... Enfin, moi, j'ai choisi le thème des rêves parce que j'ai envie qu'on termine l'année 2025 avec des rêves.
Oh, oh, il y a raison, des belles pensées à ce petit bonhomme. C'est important. Oh là 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 là. On le répéterait jamais assez.
Et surtout dans un monde de plus en plus anxiogène.
Oh bah oui, c'est
vrai. Et alors, si on peut avoir le rêve de se promener en pyjama dans un jardin, quel bonheur.
Alors là,
et voilà, exactement.
Ça monte enchanté. Tu résumes très très bien. Alors là, j'avoue, je ne sais pas si c'est...
Tout en mangeant quoi?
Tout en mangeant des chocolatines.
Bah oui.
Voilà. Stani a choisi le thème de la chocolatine. Eric, c'est un porc. Enfin, pas toi. mais le thème que tu as choisi.
Bah, en fait, c'est un mix de tout. Comme on est en fin d'année, et fin d'année, c'est la coutume des Toons, et ben, j'ai pensé à notre fameux Porky Pig. Lors de l'émission du bégaiement. Et en plus, lors de cette émission, on était presque au complet.
C'est vrai. Et je me rappelle, c'était très émouvant. Hein. On n'a pas vu le temps passer. C'était vraiment... on a passé un moment... Waouh ! Intense, sachant bien s'exprimer.
Quant à moi, j'ai préféré le thème détox avec notre invité.
Ah, parce qu'en fait, en janvier, ça va être la détox.
Voilà, il faudra y penser.
Ah voilà, là, c'est autre chose, ça c'est. On prend les bonnes habitudes,
après
nouvelle rentrée.
Le champagne.
Voilà, faut prendre les bonnes décisions.
Il faut prendre la diète.
Ouais, voilà, exactement. Parce...
Et c'était le 5 mars, nous avons parlé pyjama et Petit Manu nous faisait découvrir l'histoire du pyjama.
Ah bah oui, comme chaque fois, mon rôle dans l'émission, écoutez, découvrez un bon moment de l'émission.
Chaque semaine, il crypte l'actualité.
Un président. Américain, Monsieur Barack Obama, Donald Trump, Hillary Clinton, David Bouillet, Joe Cocker, Justin Tiberlin, Lady Dada, Shakina, oui, Kendrick.
Vous pouvez Petit Manu et son grand dossier journalistique.
J'ai mangé tous les cravotas. Non.
Tous les quoi?
Alors, l'histoire du pyjama. Vous voulez savoir d'où ça vient?
Oh non, tiens, on zappe ta chronique.
Non, c'est une question.
Non.
Alors, l'histoire du pyjama, ça commence bien avant son adaptation en Europe. Le mot pyjama vient de persan, pyjama, qui signifie
pyjama.
Pyjama.
P-A-X.
Exactement. Non, P-A-Y. Ah. Tréma. Jama. J-A-M-A.
Tant que c'est pas P-E-T, tira Jama. Oh,
non, c'est P-A-R. Voilà. Qui signifie littéralement vêtement de chambre. Ça pourrait très bien intéresser Eric. Oh là là, c'est la littérature. C'est à l'origine d'une tenue.
Un vêtement de jambe.
Oui, oui, un vêtement de jambe.
Je savais pas que ça m'intéressait.
Mais quand tu vas te coucher, je mets mon vêtement
de jambe. Juste pour une jambe. J'ai peur d'avoir froid à la jambe.
Vêtement de jambe. C'est à l'origine. Alors, franchement, on apprend. Au fond, j'en reviens. Merci beaucoup, Didier. T'as super
aimé. Ah oui, c'est moi qui l'ai écrit.
C'est vrai. C'est à l'origine d'une tenue portée en Asie du Sud, notamment en Inde. Ce vêtement était particulièrement adapté au climat chaud, permettant ceux qui le portaient de rester à l'aise tout en étant à l'aise des insectes. Au XVIIIe siècle, les marchands européens et les colonisateurs découvrent ces pantalons dans les régions d'Asie, notamment en Inde, où ils ont rapidement adapté les milieux aristocratiques en Angleterre, notamment les pyjamas étaient portés par les soirées dans un souci, tu vois, je m'étais pas trompé, au hasard, dans un sort aussi de style, et ça posait l'élégance décontractée, une manière de se distinguer des vêtements de nuit traditionnels comme les chemises de longue de nuit lourde. Le véritable tournant de l'histoire du pyjama a eu lieu en 19e siècle, deux ans après, faut savoir, pendant les
deux ans après 1900.
Non, mais je veux dire pendant en 17e siècle, il y a deux ans
après. 17e siècle, oui. Deux ans après, on est 19e siècle.
Non, wow, non, j'ai commencé au 19e siècle, là maintenant on est.
T'es monté dans une machine temporelle.
Non, j'ai commencé tout à l'heure au 17e siècle, là on est au 19e siècle.
Oui, mais t'as dit deux ans après.
Ah non, deux ans après, 17e siècle, deux ans après, je veux dire.
Deux siècles.
Voilà, deux siècles, évidemment. Je précise. Au 19e siècle.
Oui, on va chipoter.
Voilà.
Au 1998 ans.
Un siècle près.
Voilà. Pendant à l'époque victorienne où l'Angleterre connaît une révolution de matière, de mode, de confort. C'est les soldats britanniques en Inde qui les ramenaient. Les pyjamas alors ont adopté la famille royale et les classes aisées. Surtout les vêtements de nuit. Et les femmes, elles, continuent de porter les chemises de nuit longues et volumineuses. Et ce n'est au début du 20e siècle que le pyjama féminin, ah, pour vous les filles, mesdemoiselles, mesdames, a se popularisé la silhouette des années 1920, influencée par la recherche du confort et devient un symbole d'émancipation féminine. Les années 1950 marquent un tournant décisif dans l'histoire du pyjama. L'apparition du pyjama comme vêtement de loisir n'est limitée qu'à la chambre à coucher Hollywood, aux États-Unis, où il y a plein de stars et comédiens, joue un rôle majeur dans ce phénomène. Des stars comme Audrey Hepburn, Audrey Taylor, adore des pyjamas élégants dans les films et sur les tapis rouges. Et même le pyjama s'impose comme une tenue confortable, aussi élégante pour les moments de détente à la maison. Des fois, on peut se mettre en pyjama, c'est vrai, des
on peut rester en pyjama.
Ah oui,
se mettre, oui, t'as raison.
Qu'on n'a rien à faire, après, ça peut pas aller de baba. L'industrie se divestit les matériaux, la soie, le coton, la flanelle et les satins. Et je pense aussi les sans-culottes, ils avaient des habits en Angleterre aussi.
Les sans-culottes, ils n'ont pas de culottes.
Ah non, mais c'est voilà.
Bah, est-ce
voilà
qu'ils ont un pyjama.
Voilà, l'histoire du pyjama. Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas tout ça. Et bien, dans les idées importantes, bah, vous saurez d'où ça vient. La bonne explication. Un thème très intéressant d'ailleurs. On te remercie, reconnaissant, Didier. Je suis très fier.
Voilà, c'était l'histoire du pyjama, thème qu'a choisi Petit Manu,
bah oui,
son thème préféré de 2025.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'émissions, puis je crois que ça en vaut la peine.
Le 16 avril, nous avons abordé le thème du jardin, et Marie-Christine se penchait sur la réglementation, car en France, il y en a. Loi, réglementation, Marie-Christine vous dit tout.
Et puis, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut pas faire, oh là là, entre nos connaissances et la réalité.
Vous êtes-vous demandé quels codes garantissent la qualité et la sécurité de ces délices incontournables? Eh bien, accrochez-vous car nous allons explorer ensemble les règles, la réglementation.
On écoute toujours Marie-Christine avec la plus grande attention. Oh là là, l'expérience de la vie, la maturité.
Alors, commençons par les plantations. Pour les arbres de plus de 2 mètres, il faut les planter à au moins 2 mètres de la limite de la propriété. Pour les plantations de moins de 2 mètres, c'est 50 cm minimum. Pour les clôtures, vous pouvez installer une clôture en limite de propriété, mais attention au plan local d'urbanisme qui peut imposer des restrictions sur la hauteur ou sur le style. Qu'en est-il des abris de jardin? Alors là, ça dépend de la taille. En dessous de 5 mètres carrés, pas de formalité. Entre 5 mètres et 20 mètres carrés, il faut faire une déclaration préalable. Okay. Au-delà, c'est un permis de construire qu'il faut demander. Et le bruit dans tout ça, vous allez me dire. Ah, sujet sensible. L'utilisation d'outils bruyants est réglementée. En semaine, c'est autorisé de 8h30 à midi et de 14h à 19h. Le samedi, de 9h à midi et de 15h à 19h. Et le dimanche, seulement de 10h à midi. Une dernière chose, sur les déchets verts, important, le brûlage est interdit depuis 2014, sauf exception locale, il faut les déposer en déchetterie ou utiliser des collectes organisées.
Alors qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas ces règles ?
Eh bien, les conséquences peuvent être graves. Tout d'abord, il y a des sanctions financières. Les amendes peuvent être importantes, parfois plusieurs milliers d'euros, selon la gravité de l'infraction. Attention. Par exemple, si vous construisez sans autorisation, vous pouvez payer 6000 euros par mètre carré. Ensuite, il y a l'obligation de mise en conformité. Cela signifie que vous devrez modifier vos installations et plantations pour respecter les normes, ce qui peut engendrer des coûts supplémentaires. Dans les cas les plus graves, comme une construction sans autorisation, les autorités peuvent même organiser la démolition pure et simple des installations non conformes. Ensuite, il y a bien sûr les poursuites judiciaires. Vous pourriez faire face à des responsabilités pénales ou civiles, ce qui pourrait vous coûter cher en temps et en argent. Enfin, il y a des conséquences indirectes, les tensions avec les voisins. Par exemple, si vos plantations ne respectent pas les distances réglementaires, et bien sûr, une non-conformité persistante peut dévaluer votre bien immobilier. Alors, pour éviter tout problème, il est vraiment important de respecter ces règlements. Nous vous conseillons de vérifier auprès de votre mairie pour connaître les spécificités de votre région. Enfin, il y a le petit plus pour tous les jardiniers de France, la fiscalité, la case 7DB. Que vous soyez propriétaire ou locataire, si le bien en question est votre résidence principale ou un bien locatif, vous pouvez bénéficier d'un remboursement équivalent à 50% de vos dépenses que vous avez engagées. Et ce, dans la limite de 5000 euros par an, par foyer fiscal, pour les travaux de jardinage. Vous pouvez donc avoir jusqu'à 2500 euros de crédit d'impôt.
Et de crédit d'impôt, oui.
Que vous soyez jardinier du dimanche ou de la semaine, goûtez cette passion. Vous serez ravis.
On continue avec la nature et le thème que j'ai choisi avec une naturopathe spécialisée du jeûne et de la détox, Anne-Sophie Petitjean. Comment faire une détox ? Pour répondre à cette question, nous avons Anne-Sophie Petitjean, naturopathe spécialiste du jeûne et de la détox. Bonjour.
Oui, bonjour. Vous allez bien ?
Oui, très bien. Alors, on va aller encore mieux avec du coup vos conseils en détox. Quel type de toxines le corps accumule-t-il ?
Alors déjà, il faut savoir que le corps, normalement, il est capable de s'auto-réguler et de s'auto-nettoyer. C'est-à-dire, il est capable d'évacuer les toxines. Sauf que notre vie actuelle, la vie moderne, la pollution et puis toute l'accumulation des toxines qu'on a aujourd'hui, ça bloque justement cette évacuation des toxines. Et donc, les toxines, elles sont de plusieurs sortes. Et elles peuvent être internes au corps ou elles peuvent être externes. De sources externes, les toxines, alors on retrouve bien évidemment l'alimentation.
Oui.
Au travers les pesticides, les additifs alimentaires, tout ce qui est sucre raffiné, produits transformés ou ultra transformés. Tout ça, ça apporte des substances toxiques à notre corps. Mais on a aussi en source externe, on a la pollution environnementale. Alors bien sûr avec l'air qu'on respire, mais aussi avec l'eau qu'on boit. Et tous les produits chimiques qui sont présents donc dans l'eau et aussi dans tous les produits cosmétiques, les produits ménagers qu'on utilise au quotidien. Et la dernière source au niveau externe, c'est ce qu'on retrouve dans les médicaments. Parce qu'une prise prolongée de médicaments, ça peut laisser des résidus chimiques au niveau du corps.
D'accord.
Qui peuvent être difficiles à éliminer.
Et comment la détox les élimine-t-elle ?
Alors justement, voilà, le corps il est capable normalement d'évacuer toutes
lui-même,
les toxines.
Ouais.
Justement, quand il y a trop de toxines qui s'accumulent et elles peuvent pas être toutes éliminées, et c'est à ce moment-là qu'apparaissent les signes de fatigue, d'inflammation, de problèmes digestifs, les problèmes de peau. Et le corps il est capable lui d'évacuer ces toxines par les 5 organes émonctoires le foie, les reins, les intestins, les poumons et la peau.
D'accord.
Une cure détox, ça vise justement à soutenir ces organes pour qu'ils fonctionnent de manière optimale et pour qu'ils contribuent à éliminer encore plus les toxines pour qu'on retrouve un état de santé optimal.
Et quels différents styles de détox existent-ils ? Il y a le jeûne, il y a...
Oui, alors bon, il y a plein de détox. Ça dépend des besoins spécifiques du corps et puis de nos modes de vie. Bien évidemment, on connaît tous ce qu'on appelle la détox alimentaire. Donc là où il y aura une modification du régime alimentaire.
Ponari nous donnera quelques exemples après.
Oui. Et on va plus travailler là sur les régimes alimentaires pour alléger le système digestif et stimuler les organes émonctoires. Dans la détox alimentaire, il y a la détox à base de jus de légumes, donc qui consiste à consommer uniquement des jus de légumes et de fruits frais pendant plusieurs jours pour un apport en vitamines, en enzymes, en minéraux, et pour surtout reposer le système digestif.
D'accord.
Il y a aussi la détox végétale, c'est-à-dire qu'on va exclure tous les produits d'origine animale en privilégiant toujours les fruits, les légumes et puis tout ce qui est céréales. D'accord. Après, il y a plein de détox, on peut éliminer le gluten, on peut éliminer le lactose. Et il y a ce qu'on appelle aussi la monodiète, c'est-à-dire qu'on va consommer exclusivement un seul aliment par jour. C'est-à-dire ça peut être une monodiète de riz, ça peut être une monodiète de pommes, une monodiète de raisin. Et ça, c'est pareil, c'est pour permettre vraiment au corps de se concentrer sur l'élimination des toxines et puis pour alléger le système digestif. Après, il n'y a pas que la détox alimentaire. On a aussi une détox en fonction des organes, en fonction de celui qu'on veut stimuler en priorité. Ça peut être le foie, les reins, la détox des poumons, la détox intestinale. Donc ça, en fonction de la détox choisie, on aura des plantes qui vont nous accompagner. Ça peut être pour le foie, ça sera le radis noir. Ça pourrait être l'artichaut, le chardon-marie. Pour les reins, le but, ça va être d'éliminer, de favoriser l'élimination des toxines par l'urine, donc grâce à des tisanes diurétiques, telles que la queue de cerise, telles que le pissenlit. On a aussi la détox des intestins. Donc là, ça va être pour rééquilibrer la flore intestinale, surtout avec des fibres ou des probiotiques. Et puis, la détox des poumons, c'est surtout pour les gens qui fument ou qui sont exposés à beaucoup de pollution de l'air. On va utiliser des exercices respiratoires, mais aussi des plantes telles que le thym, l'eucalyptus ou...
D'accord.
Plein d'autres choses. Après, on a aussi ce qu'on appelle la détox digitale. Ça, c'est super important aussi pour nous aujourd'hui qui sommes tout le temps exposés aux écrans. Ça consiste vraiment à éliminer tous les appareils numériques pour retrouver un calme mental et améliorer la qualité du sommeil.
Voilà, on va le développer aussi avec Ponari tout à l'heure.
Et il y a aussi la détox émotionnelle, donc là où on va vraiment travailler les émotions négatives comme le stress, la colère, avec des exercices de méditation, de respiration, des pratiques énergétiques. Et puis la détox environnementale consiste à purifier notre environnement. On entend tous parler du fameux nettoyage de printemps, donc c'est ça, c'est nettoyer, c'est purifier, c'est remplacer les produits ménagers chimiques, c'est utiliser des purificateurs d'air, c'est limiter l'exposition à tous les plastiques, à tous les produits chimiques.
Est-ce que tout le monde peut faire une détox? Est-ce qu'il n'y a pas de danger sur les personnes âgées, enceintes, les bébés?
Oui, tout le monde peut faire une détox, mais après, elle s'adapte à chaque personne, aussi en fonction de l'objectif recherché. Alors, ça dépend beaucoup de la vitalité de la personne, parce que, comme je vous le disais, les détox, il y en a beaucoup, elles sont toutes différentes. Et bien sûr, il y a des personnes qui seront pas propices à réaliser une détox. Alors là, j'entends, par exemple, les femmes enceintes ou allaitantes. Là, le corps, il est pas du tout prêt à faire un nettoyage. Oui. C'est pas recommandé. Car leur corps, il a besoin de tous les nutriments pour nourrir le bébé. Et donc, il vaut mieux privilégier une alimentation équilibrée, saine et naturelle. Pour les enfants et les adolescents, c'est pas nécessaire non plus parce que leur organisme, il est en pleine croissance et il sait naturellement éliminer ses toxines. Donc, dans ce cas-là, c'est pareil, on va privilégier des repas sains et variés. Et puis, pour les personnes âgées, donc là, ça sera aussi avec beaucoup de prudence parce que il faut pas fatiguer encore plus leur organisme qui est déjà peut-être fragile. Donc là, on va favoriser une alimentation plus légère et riche en nutriments qui serait plus adaptée à leur vitalité. Et pour les personnes en bonne santé, si elle se fait intelligemment en privilégiant des aliments frais et surtout en évitant les restrictions trop sévères, parce que quand il y a beaucoup de restrictions, beaucoup de carences, et quand là, le corps, il subit un stress avec cette détox, c'est pas forcément une bonne chose pour le corps. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours le faire avec vraiment beaucoup de douceur, avec beaucoup de bienveillance pour son corps.
Et alors comment on réalise un jeûne? Ça dure combien de temps?
Alors le jeûne, c'est pareil. On va dire que c'est la technique ultime pour nettoyer le corps. C'est pratiqué depuis des millénaires dans toutes les cultures, dans toutes les religions, dans toutes les traditions. Que le jeûne, c'est le principe de mettre son système digestif totalement en repos, pour que le corps il se concentre à la réparation, à l'élimination des déchets. Il y a plusieurs sortes de jeûnes aussi. Il y a le jeûne, ce qu'on appelle hydrique, où on va consommer que de l'eau. Ça va être vraiment, on va enlever toute l'alimentation solide du corps. Donc là, il y aura plus du tout de digestion. Il y a aussi le jeûne sec. Donc ça, c'est un jeûne où il n'y a ni eau ni nourriture. Mais alors celui-là, il doit être vraiment pratiqué donc avec un accompagnement, avec précaution et surtout que quelques jours, parce que là, c'est vraiment, on va dire, le plus intense des jeûnes. Et après, on a le jeûne partiel, donc qui est basé sur des jus de légumes et sur des bouillons de légumes, donc avec un apport minimum en calories et pour donner au corps le minimum de ce qu'il a besoin et puis continuer à nettoyer en profondeur.
D'accord.
Et puis, il y a bien évidemment le jeûne intermittent qu'on entend parler beaucoup en ce moment, une prise alimentaire sur certaines heures de la journée. C'est enlever, par exemple, le petit déjeuner ou le repas du midi, manger que deux repas au lieu de trois. Enfin, ça, on en entend beaucoup parler.
Quelles sont les grandes étapes du jeûne?
Alors, le jeûne, il se fait en trois étapes. Donc, il y a la partie descente alimentaire. Le jeûne, il doit correspondre à une durée précise. Si on veut jeûner 5 jours, par exemple, il faut faire 5 jours de descente alimentaire. Et après, il y aura les 5 jours de reprise alimentaire. Il y a vraiment trois étapes. La descente, le jeûne en lui-même et la reprise alimentaire. Donc, la descente et la reprise, on va enlever ou rajouter au fur et à mesure des aliments de notre alimentation, tels que la viande, tels que les céréales, pour arriver au dernier jour avec que des aliments tels que les légumes, les fruits frais, hein, pour commencer le nettoyage. Après, il y a le jeûne et après, il y a la reprise. C'est vraiment des étapes fondamentales.
D'accord.
Et donc, moi, j'accompagne les gens, donc quand ils viennent jeûner donc dans mon centre, à faire en amont déjà la préparation du corps avec la descente. On réalise le jeûne ensemble ici pendant plusieurs jours. Et après, j'accompagne aussi sur la semaine d'après, le retour à la maison, sur la reprise alimentaire, parce que c'est vraiment la façon dont on va manger après un jeûne qui est importante. Et puis, de faire les choses aussi avec beaucoup de sagesse et de les faire de façon encadrée et en sécurité, hein, pour pas non plus faire du mal à son corps.
Vous proposez des accompagnements, hein?
Oui, donc en naturopathie sur 4 mois pour faire justement des détox, pour accompagner le corps à retrouver un état de santé optimal. Ou alors je propose donc des séjours en immersion pendant une semaine pour jeûner ensemble où il y a des activités telles que le yoga, où il y a des ateliers de cuisine pour après, pour la préparation, où il y a plein d'ateliers différents au cours de la semaine et pour accompagner aussi le nettoyage du corps.
Ça coûte combien à peu près un séjour détox?
Un séjour de jeûne, ça dépend après combien de temps vous voulez jeûner. En moyenne, il faut compter dans les 700 euros une semaine.
D'accord. Eh ben, merci Anne-Sophie Petitjean, naturopathe spécialiste du jeûne et de la détox.
Merci à vous.
Voilà, c'était le 12 février. Et Kevin, avant de rediffuser ta chronique préférée de 2025, tu vas nous proposer un titre phare de cette année.
Eh ben moi, je vous propose un titre de Gims qui a fait sale comble ce mois-ci à la Cor Arena où il a affiché complet. C'est le titre Ninao.
J'arrive, ça regarde travers, capuché parce que je suis trop cramé. J'avance avec équipe armée, je m'organise comme si je mourrais jamais. Mon amour, je vais rentrer tard, étrier bleu ciel, fait noir. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Ani nanani ninao, tani nani nani nao. Ani nanani ninao, tani nani nani nao. Ani nanani ninao, tani nani nani nao. Ani nanani ninao. J'ai fait des choses regrettables, c'est ça d'être toujours en pétard. T'es mal équipe, redoutable, je connais la nuit comme les guettards. Passe la douanière, rien à regarder, de toute façon je suis booké sur toute l'année. On s'est vu le temps d'une soirée, encore un petit cœur à réparer. Mon amour jouait, rentrer tard, étrier bleu ciel, fait noir. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Ani nanani ninao, tani nani nani nao. 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 Amale, 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 amale.
Gims, Ninao.
Ponari a choisi un thème il y a quelques jours, mais est-ce que le thème des célibataires est toujours ton préféré, quelques jours après?
Oui, les célibataires et les ninjas aussi.
D'accord.
Les ninjas après aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir, et puis la raclette. L'esprit ninja, ça m'a appris déjà beaucoup de choses. Je pensais pas qu'on pouvait autant être aussi stratège, en fait.
Ouais.
Le ninja, il est stratège. Il sait disparaître et parler pour ne rien dire. C'est assez fun, hein.
Et c'est curieux, Ponari. Moi, pendant, j'ai choisi un sujet, j'avais dit tes chroniques, j'adore tes chroniques. Et il dit, vas-y, t'as choisi. Et j'ai choisi la chronique pyjama.
Oui, parce que je lui demande quelle chronique il préfère de 2005
à Rodifé.
Il m'a dit les chroniques de Ponari.
Ah, j'adore
dit, oui,
les chroniques, vraiment. Toutes les, la façon comment tu parles. Alors là, premier fan. Bon, après, j'avais choisi la, je te tiens au courant, j'avais choisi la pyjama, c'était, sinon, c'est venu comme ça. Mais je choisis quelque chose. Les chroniques, hein, vraiment, t'as une pédagogie. Tu peux être très fier de toi. Oh là là.
Merci beaucoup. Hein,
bon, après, j'ai changé la chronique pyjama, voilà. Donc, je te tiens au courant, Ponari. Après, du Gerbe, Malgan, le Mal Velour, avec son succès.
En tout cas, tu avais listé les avantages d'être célibataire le 5 novembre. Et retrouver la chronique bien-être.
Bah, de Ponari, et puis je peux vous dire qu'elle assure, elle nous voit. On est rempli d'émotions. Les yeux, on est captés sur elle.
Posez-vous la question, de quoi ai-je besoin aujourd'hui pour être bien avec moi-même?
Et même des fois, on a failli pleurer d'émotions.
La chronique bien-être de Ponari.
Selon une étude réalisée par Statista en 2023, une plateforme internationale spécialisée dans les statistiques, études de marché et données chiffrées sur une multitude de sujets, 48% des célibataires disent ne pas chercher activement de partenaire.
Ah.
Et oui. Et parmi eux...
Petit Manu a un doute.
Oh non, non, c'est un doute. Non, parce que, c'est comme tu disais tout à l'heure, Marc, il y a beaucoup de solitude et des fois, les grands déprimés, ils se retrouvent seuls. J'en ai tapé. Mais continue.
Là, on parle du choix du célibat assumé.
Ah oui, donc après, c'est un choix.
Rien n'est très... parfait.
Ah oui, là, c'est, assumé, très, c'est très différent. Assumé. Là, là. Évidemment.
Donc, parmi eux, environ la moitié affirme qu'ils se sentent mieux seuls que mal accompagnés.
Ah bah, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que je pensais des fois...
Et Ponari, on peut pas être seul, mais en couple.
Comment ça?
On peut être en couple, mais seul. Mais seul en couple.
Ou alors en couple, et chacun vit chez soi.
Ah oui, exactement, c'est, ça arrive. Je pensais ça aussi.
Ça peut être bon aussi.
Ah, je pensais que c'est une possibilité.
Ça, c'est les couples modernes.
Ah
ça.
Oui, exactement. Ouais. Je pensais à ça. Nous, c'est vivant aujourd'hui.
Donc cela représente environ 4 à 5 millions de personnes en France qui choisissent le célibat par choix, confort, liberté ou équilibre personnel. Ah, le célibat, bah oui, ce fameux statut qu'on subit ou qu'on choisit, mais qu'on finit quand même par défendre, surtout quand on vous demande pour la 12e fois, et vous, vous avez quelqu'un en ce moment?
De quoi pourrais-tu nous poser la question?
Bah ouais, voilà, on a envie de dire de quoi je me mêle.
On pourrait même te la retourner. Bah,
hein. Je vais vous donner une astuce.
On voudrait que moi aussi.
Être célibataire, ce n'est pas une maladie, c'est même parfois une promotion. On évite d'en faire trop la publicité parce que la société adore prétendre que sans couple on n'est pas complet. Mais en réalité, le célibat offre des super pouvoirs qu'on oublie de valoriser. Premier avantage, la paix logistique. Personne ne vous prend votre couette, votre oreiller ou votre chargeur de téléphone. Vous ne négociez plus la température de la chambre. Il fait 19 degrés ou 23 degrés si vous voulez. Et surtout, vous dormez en étoile de mer sans explication à fournir.
Ah oui, mais sauf si t'as un chat.
En étoile de mer,
ça se négocie avec les chats.
Ça veut dire dormir tranquillement, c'est ça, en étoile de mer, je connais.
Non, étoile de mer.
Ah oui, en étoile de mer.
T'écartes les jambes et les bras.
Ah, voilà. Faut avoir une certaine souplesse.
Bon, enfin.
Oui, en étoile de mer.
Tu fais pas l'étoile de mer quand tu vas à la mer, sur la plage.
Non, je ne sais pas cette expression, mais je trouve ça très joli. Dormir en étoile de mer,
Côté alimentation, c'est la liberté totale. Vous avez le droit de manger des pâtes au beurre à 23h, des tartines de confiture au dîner, ou d'élever le fromage au rang de plat unique. Personne ne juge, même votre frigo vous respecte. Financièrement...
Et moi, je respecte pas mon frigo.
Et pourquoi?
Parce que je le dépouille quand je le
Ah bah oui. C'est un peu gourmand, Didier.
Trop.
Des fringales de 3h du matin.
Les 7 péchés capitaux.
Péchés capitaux.
Les 7 péchés capitaux. Les 7 péchés capitaux.
Moi, j'ai les 7 en même temps.
Au moins, tu reconnais, c'est bien. C'est bien.
Financièrement, il faut l'admettre, le célibat est rentable. Pas de cadeau d'anniversaire à 200€ sous pression affective. Pas de week-end surprise à Venise pour sauver un couple en détresse. Pas de dîner imposé dans son petit resto préféré. Ou l'addition pique plus que le poivre.
On se récupère là-dessus. On paye plus d'impôts, mais on se récupère
là-dessus.
Voilà. Vous pouvez offrir un vrai cadeau à votre compte épargne.
Voir l'émission de la semaine dernière.
Exactement. Alors là, on a pris des tas de choses. C'était très enrichissant.
Et puis, il y a un trésor, la télécommande. Parce que la télécommande, elle devient royale. Vous pouvez enchaîner 3 heures de série, vous pouvez regarder un documentaire animalier.
Tu sais que tout ça, ça se regarde aussi sur les plateformes avec son ordinateur.
Ah oui, bah on peut.
Oui, bah, seul ou à deux, mais souvent on fait seul. Alors,
il n'y a pas besoin de télécommande dans ce cas.
Oui, mais si t'as une télé de 75
pouces. Ah bah oui.
Oui, c'est vrai.
Faut une télécommande.
Oui, oui.
Faut dire pour le plaisir, l'enthousiasme.
Bon, ça m'arrive encore d'utiliser la télécommande.
Ah voilà, bah oui.
Ah, tu vois.
Ah bah
tu
voilà.
C'est toujours de d'actualité, la télécommande.
Ah oui.
Mais oui.
Oui. Faut préciser.
Je sais plus où elle est, moi, mais oui, j'en ai.
Donc on a personne pour nous dire, on regarde mon truc après. Autre avantage à ne pas négliger, la décoration intérieure.
Ah oui, alors ça peut être un sujet de discorde. Oh là là. Quand t'es
et
en
oui.
Coupe, hein.
Bah oui. Vous pouvez vivre avec une plante, une bougie, un plaid sans qu'on vous impose un mur en béton ciré, 3 coussins à motifs géométriques ou une statue design en forme de concept non identifié. Bon, j'exagère évidemment. Mais le vrai luxe, le grand, c'est l'agenda personnel. Pas de « on fait quoi ce week-end chez mes parents ?» Pas de déjeuner familial où vous êtes interrogé comme un examen. Pas de « on sort même si vous êtes épuisé, ça vous fera du bien ».
Ça sent le vécu, un peu navet. Avec une belle-mère, non ?
Je sais pas le dire, mais...
Avec une belle-mère qui t'a posé plein de questions.
C'est des généralités.
Je sais pas le dire, mais Didier, tu m'as devancé. Par là, j'avoue. Oh là là, cette émission, c'est ouf. On apprend des têtes sur côté du Fondari.
Voilà, vous pouvez ne rien faire, voir vos amis, traîner, être lire, rêver.
C'est la liberté.
Bah voilà, oui, sans recevoir un message du type « Tu rentres bientôt, t'es où ?»
Oh là là.
Je suis sûre que ça reparle.
Il est 4h du matin, t'es encore dehors.
Voilà.
Sans avoir la morale.
Oh là là.
Voilà.
Oh là là.
Et il existe un moment sacré, le silence.
Ah,
ce silence sérénité. Magnifique où on n'entend rien. Pas de débat sur les chaussettes, pas de porte qui claque, pas d'aspirateur le dimanche matin. Juste vous, votre café et le bruit discret du frigo qui médite. Enfin, après que Didier l'ait
complètement vidé.
Voilà. Alors oui, être en couple, c'est charmant, mais être célibataire, c'est un peu comme avoir un abonnement premium à soi-même. Zéro publicité, zéro compromis, contenu illimité.
Ah.
Et oui. Et si quelqu'un vous demande... Vous n'avez pas peur de finir seul ? Vous pouvez répondre calmement. Non, j'ai juste peur qu'on me pique la couette, la télécommande et mon dernier pot de mousse au chocolat.
Et le célibat, c'est aussi moins d'espionnage de la part de son partenaire. Y compris sur les réseaux sociaux.
Oh là là !
Attention aux photos, Kevin.
Je l'ai pas vécu, mais j'ai connu des situations comme ça.
Voilà, à tous les célibataires qui nous écoutent, vous n'êtes pas seuls, vous êtes en colocation avec votre liberté. Et ça, aucune application de rencontre ne peut le remplacer.
Et Kevin, tu as choisi le thème des rêves, c'était le 24 septembre.
Tout à fait, l'un des thèmes de la rentrée. Et c'est parti pour le quiz.
Non, quiz. Attends. Comme le cheese.
On cherche à comprendre encore la règle du jeu. Je vais me porter sur un truc.
Mais
Alors si ça m'est arrivé de rêver de chansons qui n'existaient pas pendant mon sommeil, les chansons que je vais vous proposer sont bien réelles pour le coup et elles évoquent tout le rêve. À commencer par cette première chanson, avez-vous reconnu la chanteuse ? Et oui, Maria Carey, hein, avec ce...
tout de suite.
On reconnaît sa voix, mais est-ce que tu connais cette chanson ?
Dream Lover.
Oh,
yes.
Elle a des connaissances.
Qui signifie en français...
Oui, son album.
Ah.
Tu sais en quelle année il est sorti l'album ?
Oh, je ne saurais pas te dire les années.
Cette chanson est sortie en 1993.
D'accord.
Maria Carey avait 24 ans. Dream Lover, ça veut dire quoi en français, petit Manu ?
Attends, répète.
Dream Lover. Alors, Dream, c'est quoi ?
Dreams.
Rêve.
Les rêves ?
Oui,
les rêves.
Et Lover.
Elle n'aime plus les rêves, quelque chose de...
Non, Lover, ça veut dire...
Aimer, l'amour.
Oui, voilà, l'amour de mes rêves.
Voilà, c'est ça, l'amour de ses rêves. Voilà, voilà, on fait une analyse, voilà.
Et oui, Dream Lover, chanson de Maria Carey, sortie, je l'ai dit, en 1993. C'est un titre qui parle du fait d'attendre le véritable amour. Dans cette chanson, Maria Carey, elle exprime son désir de rencontrer quelqu'un qui saura l'aimer sincèrement, sans superficialité ni faux semblant. J'espère que c'est ce qui lui est arrivé. Le terme de dream lover y renvoie à cet idéal amoureux qu'elle souhaite voir apparaître dans sa vie. Quelqu'un qui lui apporte à la fois la tendresse, la confiance et la stabilité. Est-ce que c'est quelque chose dont vous aimeriez que ça vous arrive à chacun de vous?
Évidemment.
Évidemment,
mais ça relève du divin. Ça.
Oui, évidemment.
Ça s'appelle la perle rare, c'est pas pour rien.
Ah, exactement. Il a tout à fait bien résumé. J'ai bien le pur qu'il y a eu. Ouh là là, vraiment, c'était...
Tout le monde prend un temps de réflexion.
Réfléchis, c'était bon, conscient.
Ce qu'elle veut dire dans cette chanson, Maria Carré, c'est que chacun a droit à un amour idéal, pur et rassurant. Même toi, petit Mali.
Mais par contre, oui, le grand amour, une fois dans la vie, il paraît que c'est...
En fait, je veux dire, ça fait partie du rêve.
Ah oui, ça fait...
Tout à fait, oui.
Ça devient une réalité, il n'y a pas une autre question, quoi.
Et cette autre chanson fait partie du rêve aussi. C'est un groupe, de qui il s'agit à votre avis?
Have a dream, the sun to see.
Abba?
Oui, Abba, j'allais Abba, dire. Voilà, c'est de quel pays Abba, à votre avis?
La Suède?
Oh, oui, Suède, tout à fait. Et cette chanson s'intitule J'ai un rêve, mais à l'anglaise.
I have a dream.
Yes,
oh, I have a dream. Chante un petit peu. N'aie pas peur, t'inquiète
non,
pas.
Non, faut venir au karaoké avec moi.
Pourquoi pas, ça serait
Il y a un défi lancé là.
Oh là là.
Ah oui,
gros. Et ça
défi.
Tombe bien, tu vas faire rêver petit Manu.
Oh bah non, ah, j'aimerais bien aller au karaoké. Il faudrait qu'on s'organise pour d'arriver.
Moi je sais pas slammer.
Ah non, mais c'est différent. Le canard, on reprend la musique de Trou. C'est assez simple.
Et oui, I Have a Dream d'abord, chanson extraite de leur 6e album studio Voulez-vous, sorti en 1979, un titre français pour le coup. Et cette chanson I Have a Dream, elle parle du fait de croire aux anges, aux contes de fées et aux rêves comme une force intérieure qui aide à traverser les épreuves. Et cette chanson, c'est faut la voir aussi comme une métaphore universelle de l'espérance.
Il y a un bon message, quoi.
L'espoir. Exactement. Mais cette chanson, avant de dormir, ça peut servir de berceuse.
Ah hein, oui, pensez-vous. Parce que c'est vrai que ça berce, c'est un bon lieu. Hein.
Bon, bah, je vais suivre tes conseils, Kevin, et les conseils de Ponari ce soir.
Bonne idée. Ouais. Alors, on passe à la troisième chanson. C'est une chanteuse, et j'ai envie de dire, tout est dans le titre.
Brisez pas mes rêves.
Oh, c'est Leslie.
Non, mais un peu dans la même veine.
Elle a la voix.
Cette chanteuse, elle s'appelle Nawel, mais c'est pas sous ce nom qu'elle est connue. Ça vous dit quelque chose, Wallen?
Qui?
Wallen, ça vous dit rien?
Non.
Elle est pas d'origine américaine?
Non, algérienne.
Algérienne.
Et ça vous dit quelque chose, Abdelmali?
Ah, ça, oui, c'est un musicien, Abdelmali.
Un slammer.
Tout à fait, un slammer aussi.
Et en fait, il s'agit de la femme d'Abdelmali.
Donc, ça veut dire qu'elle est chanteuse?
C'est ça, oui.
Oh, bah, ouais, mais peut-être que. Je sais pas si elle chante.
Elle chante plus beaucoup en ce moment, mais ouais. Cette chanson, elle date de 2001.
D'accord. Donc, elle est aussi chanteuse, faut savoir.
C'est ça, oui. Mais les paroles sont faciles à retenir, je trouve.
Ah, bah.
Vous connaissez cette chanson ou pas?
Bah non, quoi. On te remercie beaucoup. On est très reconnaissants, Kevin, hein, parce que vous connaissez?
Tout, non.
Ah bah non, bah non. Alors, on fait une sacrée découverte aussi.
Moi, je connaissais, mais je ne savais pas qui chantait.
Attends, t'avais-tu entendu parler? Tu as entendu? Ah bah alors là.
Alors, ce titre, Mes rêves de Wallen, il parle d'une quête d'accomplissement personnel et de la force que donnent les rêves pour avancer malgré les obstacles. Dans la chanson, Wallen, elle exprime que même si la vie peut être dure ou injuste, eh bien, ce sont les rêves qui nous font nous tenir debout et qui donnent un sens à notre parcours. Faut toujours croire vraiment en nos rêves.
C'est très philosophique aussi, j'ai l'impression.
Ouais,
c'est les rêves conscients.
Bah ouais,
c'est conscient. Ça, oui. C'est une façon aussi de dire qu'il faut croire en soi et en ses ambitions. Et voilà.
C'est un beau message.
Ah oui, c'est un beau message sympathique d'espoir.
Et on passe à un chanteur cette fois qui est français. Et qui fait la même chose que toi, petit Manu, de qui il s'agit.
Je ne sais pas, parce que Kevin, il sait beaucoup, hein, il connaît pas
même. C'était une soirée d'hiver, j'étais rentré pas trop tard, j'ai regardé.
Fabien, du Grand Corps Malade.
Ouais. Exactement.
Et qui a même chanté avec Ben aussi.
Ben Mazoué, exactement.
Ben Mazoué, oh là là, d'une grande gentillesse. Bonjour Fabien, oh là là. On fait un slam différent, hein. J'ai rêvé.
Les femmes en rêvent.
Oh oui, mais d'une grande gentillesse. Très gentille. Non, mais vraiment, j'ai vu. Non,
je peux vous dire, Christine, tu as des choses à dire?
Ah non, non,
ah,
non, non.
Quand tu parles de la chanson sur les femmes, oui, et puis c'est très
beaucoup,
émouvant.
Il a fait beaucoup pour les autres. Oui, Fabien, extraordinaire. Vraiment.
C'est vrai qu'il est très gentil, j'ai déjà
vu. Ah oui, ah bah, je peux vous dire, bah, je l'ai vu une fois.
Oh, en concert privé, en plus. C'était pas beaucoup, il nous a fait un concert privé.
Ah bon? Ah bon?
Là où je travaille.
Ah bon?
Ouais, il est venu, il nous a
fait un concert. T'as dû passer un moment, bah, moi aussi, j'ai vu un autographe, j'ai passé l'après-midi. Ah, et vraiment, c'est une gentillesse, il n'y a pas plus gentil que Fabien.
Moi, je regrette de ne pas l'avoir connu.
Ah non, mais ça, je
suis il est encore gentil. Vivant.
Ah oui, ah oui.
Mais tu peux encore le rencontrer.
Il est vachement disponible en plus, ouais, il est très.
Oui, il n'y a pas plus gentil que lui.
Ouais, mais j'ai pas son 06.
Marie-Christine, si un jour tu as l'occasion de le voir, je te conseille d'aller le voir. Tu passeras un moment marqué d'une pierre.
On va se calmer.
Alors, cette chanson de Grand Corps Malade s'intitule Retiens les rêves. Elle est extraite de son album Reflet qui est sorti en octobre 2023. C'est une chanson dans laquelle il évoque avec douceur et poésie, il livre un message et c'est une manière aussi de dire que garder ses rêves, ça devient une question de transmission aux enfants et aux jeunes générations et qu'il faut rester fidèle à soi-même et s'accrocher aussi aux rêves malgré les années. Car c'est aussi un message de père de famille qui livre.
Ah, tout à fait, il a des enfants.
Ce cher Fabien Marceau.
Un grand bougeur amical et quand il était jeune, il habitait à Saint-Denis. Non, mais c'est vrai en plus, oh là là.
Et on termine avec un célèbre chanteur. De qui il s'agit, à votre avis?
Jean-Jacques Goldman.
Goldman, comme d'habitude.
Et oui, ouais. Hein, Jean-Jacques Goldman avec.
J'irai au bout de mes rêves.
Au bout de au mes bout rêves, de tout simplement. Rêves. Chanson extraite de son premier album solo intitulé Démodé, sorti en 1982, qui est l'un de ses titres emblématiques. Hein. C'est dans cet album qu'il y a aussi la chanson Il suffira d'un signe. Est-ce que vous savez de quel groupe il a fait partie, Jean-Jacques Goldman, avant de lancer sa carrière solo? Le nom de son groupe?
Taifong.
Taifong. Exactement, voilà, c'est ça, j'avais le nom sur le bout de la langue.
Et il a fait aussi une grande rencontre au sein de ce groupe. Avec qui, à votre avis?
Avec Michael Jones. Michael
tout à fait.
Michael Jones aussi. Puis au début, il ne voulait pas devenir musicien. Il faisait de la batterie, je crois. Voilà. Et après, c'est comme ça. Et voilà.
Et dans cette chanson, Jean-Jacques Goldman, intitulée Au bout de mes rêves, que vous avez sûrement déjà tous entendu une fois dans votre vie, chers auditeurs, il affirme que malgré les obstacles, les jugements ou les découragements, il faut poursuivre ses rêves jusqu'au bout. Et il veut mettre en avant aussi cette volonté de persévérance. Car oui, voilà, tout à fait. Car les rêves peuvent sembler fous, naïfs ou irréalistes, mais ce sont eux qui donnent un cap à l'existence. En résumé, dans cette chanson, Jean-Jacques Goldman, il veut transmettre l'idée que les rêves ne valent que s'ils sont poursuivis avec détermination, avec rage, et qu'il faut toujours s'y accrocher, même quand on n'y croit plus, quoi,
ouais,
tout
c'est
simplement.
C'est pas toujours facile pour certaines personnes, mais il y a des gens qui passent des moments difficiles. Il faut y croire, la conviction.
Tout à fait. Sur ce, je vous invite à aller toujours au bout de vos rêves.
Et Kevin, il y a une chose que je voudrais dire. Tout à l'heure, je parlais d'un chanteur. Alors, c'est pas au niveau des rêves, mais je parlais de Étienne Dao. C'est ce qu'il disait. La nuit porte conseil. Mmh. Et donc, c'est pas les rêves, mais il parlait de la nuit. Et ben, encore un artiste. Je sais pas si tu as vécu, mais il a fait une chanson sur les rêves, la nuit. Et ben, on peut avoir une pensée pour Étienne Dao aussi, qui a fait beaucoup de duos avec d'autres personnes aussi.
Et on continue en musique avec un titre qui t'a marqué en 2025.
Alors il y a un titre là qui a fait sensation cet été, c'est chanté par une chanteuse qui s'appelle Louisa, en duo avec Bleu Soleil, et la chanson s'intitule Soleil Bleu. Un peu de soleil en cette fin d'année.
On en aura grand besoin. Oh là, ça fait de mal à personne.
Frôler les nuages, défier mon histoire. Laisse-moi m'égarer là où plus rien n'est égal. Même dans le noir, je veux sentir la terre, la douceur minérale. Laisse-moi partir même sans bagage, caresser le vent. Je veux embrasser le monde, prendre dans mes mains. La route est longue et les rêves sont grands. Je marchais sans fin, je veux vendre l'horizon. J'entends les montagnes, les étoiles m'attendent.
Limousin et Bleu Soleil, Soleil Bleu.
Eric a choisi le thème du 22 octobre, le bégaiement avec le célèbre personnage Toons Beg de la pop culture. Ça s'appelle comment?
C'est pas Zip. Non.
Porky Pig.
Eh ouais.
Ou simple comme Manu.
Oh, merci de mettre en valeur. Mais je t'écoutais avec grande attention.
Pour une fois, aucun rapport avec gros porc.
Ah, aucun rapport. Oh, loin de là.
Big Pig, non.
Non.
Pig, c'est cochon, Manu. Hein.
Oui, mais.
Aucun rapport.
Ça, ça me rappelle des vieilles insultes. Je me dis que quand on ne sait pas, faut mieux se taire que dire n'importe quoi. Je me tue, en revanche, j'écoutais. C'est une sage décision, je pense.
Ma chronique promet d'être animée car je vous emmène au pays des Toons.
Animé.
Exactement. Et on commence avec un peu d'histoire. Retournez en 1929, donc la date de naissance de Petit Manu.
Ah oui. Non.
Exactement.
J'existais pas, j'étais pas encore né, je préviens.
1909, il a dit.
Ah, mais attends, j'ai une date, hein, plus précisément le 29 mai 1929.
Ah, non, ça, donc, ouais, donc, ça date.
Donc tu es taureau, ascendant vierge. Donc c'est la date à laquelle la série animée Looney Tunes, qui se fait connaître via les ondes hertziennes, surfant sur la même vague que les courts-métrages animés produits par les studios Disney, hein, donc à cette époque, vous rappelez tous de Mickey Mouse.
Oui.
En noir et blanc, à Donald Duck.
Ah, en noir et blanc, ah ouais. Non, mais
ça a commencé comme ça.
Ah, pas abusé non plus.
Mais... bah, c'était, il n'y avait pas les couleurs à l'époque.
Voilà, il y avait aussi les chiens qui s'appelaient Dingo et Pluto.
Oui, c'est vrai.
Alors, une question justement, parce que c'est bizarre. L'un est un vrai chien dans le dessin animé, l'autre est un personnage. C'est un peu bizarre, non?
Ah, bah oui, bah, c'est une très bonne question. Bah, j'ai posé la question à Walt Disney qui est mort.
Non, mais c'est vrai que c'est bizarre.
Mais oui, c'est vrai que c'est bizarre. Donc, quoi, l'imagination?
Didier, c'est peut-être un effet américain, tu sais, dans les films, les Américains, ils ont des grands moyens. Mais c'est une très bonne question.
Bah oui, c'est soit les deux, soit rien.
Bah oui, c'est vrai, c'est logique. C'est une très bonne question, effectivement.
Alors, tout ça pour vous situer un petit peu, on est dans l'âge d'or de l'animation américaine, donc il faut dater entre 1935 et 1965. Alors, c'est produit par le studio Warner Bros. Les Toons ont connu et connaissent toujours un grand succès via deux séries qui n'en font qu'une, hein, étant donné l'univers de Bugs Bunny et compagnie, qui sont les Looney Tunes et Merry Melodies, hein, qui est plus centré, celle-ci, sur les humains à la base mélodique. Mais vous le voyez au début de chaque chapitre, Looney Tunes ou Merry Melodies. Et en parlant d'univers, aujourd'hui, j'en extirpe un des personnages pour vous parler de Porky Pig, plus précisément. Donc, pour vous rafraîchir la mémoire, c'est le cochon qui est bègue, hein. Il est très célèbre, né sous la plume du cartooniste américain Fritz Freelang. Il apparaît quand même dans au moins 200 cartoons, si ce n'est que 200, hein, puisque ça a continué encore. Et sa première datant de 1932 dans un court-métrage. Sa personnalité, son bégaiement a fait de lui une star et on le verra même bien après, en 1988, dans le film qui veut la peau de Roger Rabbit.
Ah,
de Robert Zemeckis. Oui, on le voit, il fait une courte apparition.
Mais j'étais pas
allé et estomaqué.
Parce que je le connais quasi par cœur, le film.
Il défile avec tous les Toons.
Alors, normalement. Ça lui embouche un coup.
D'accord.
Donc Stani, voilà. Et dans les réseaux, tu me diras le timecode.
Oh,
à quel moment tu trouves. Alors on le voit aussi dans deux films, hein, Space Jam, hein, que vous connaissez tous, aux côtés de Bugs Bunny, Daffy Duck, Elmer Fudd et Sylvestre. Sylvestre qui est un
chat.
Exactement. Qui s'appelle aussi Grominet.
Ah, Grominet. Ah oui.
Ah oui, c'est lui, Grominet.
Ah, je savais pas, mais évidemment, on voit.
Qui a ses propres épisodes, Titi et Grominet.
Exactement, c'est ce que je pense.
J'ai vu un Grominet.
J'ai cru voir un Grominet.
Ça te dit rien, petit Manu?
Oh, c'est une reprise américaine, mais oui.
Ouais, ça t'a jamais arrivé.
De
voir le groupe.
J'ai déjà dû voir un groupe. Bah oui, il y a pas mal de dessins animés. Non, je connais bien. Reprends parce que t'as une super conviction, Eric. Oh là là.
Alors, c'est un personnage naïf, hein, qui s'occupe de ses affaires, mais à qui il lui arrive toujours des péripéties, d'où l'effet comique de ses aventures. Il est souvent bouleversé par les événements qui lui tombent dessus, notamment à cause de son compère Daffy Duck, qui est le.
Canard,
bien sûr, comme on dit son nom. On pensera entre autres à l'épisode où il est victime d'infestation de termites dans sa demeure, où il est aux commandes d'un avion, où il effectue son service militaire dans les légions étrangères. Tout cela lui cause de grosses sautes d'humeur, au point de se mettre en colère contre ses bourreaux et être envahi de grandes émotions. Alors je vous propose un extrait où il perd ses clés à côté de Daffy Duck.
Mes clés, je trouve pas les clés de ma voiture. Je peux pas arriver en retard au bureau. Où ai-je bien pu les poser?
Hey, Porky, tu permets? Je regarde la télé!
Je stresse!
D'accord, je vais t'aider à les trouver. Toi, mon ami, tu nous fais une grosse crise de tête dans le brouillard.
T'as peut-être raison.
Mais oui. Faut surtout pas t'en faire, ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Tu vois?
Alors tu vas m'aider à chercher mes clés?
Absolument. T'as besoin d'un bon petit massage mental. C'est bon pour faire marcher ta mémoire. Tu te rappelles où t'as mis tes clés tout à coup?
Non.
Alors dans ce cas, on va creuser un peu plus et donner un coup de fouet à tes neurones. C'est bon, ça te revient?
Non.
Attends, je vais jeter un œil.
Avec le recul, il est intéressant d'observer de plus près ce personnage, car pour contourner son bégaiement, Porky Pig remplace un mot par un autre, plus simple à prononcer. Une étude clinique des dessins animés de Porky Pig de Gerald F. Johnson sur ce personnage révèle qu'il bégait sur environ 23% de ses paroles et présente une grande variété de symptômes. Et par ailleurs, cette recherche permet de dire que malgré la gravité de son bégaiement, et là ça te rejoint à Christine, Porky Pig a réussi des examens pour accéder à de nombreux métiers comme agriculteur, pompiste, marin, ingénieur ferroviaire, pilote, soldat de la Légion étrangère et aussi présentateur de journal télévisé.
Alors là, c'est plus compliqué.
Mais
il y a un amateur quand même.
Bah, je relève le défi, regardez tous ces épisodes où on voit Porky Pig dans ses différents métiers et on pourra peut-être échanger sur les réseaux à ce sujet. Alors, qui dit film d'animation, on dit doublage. Hein. Il faut savoir que l'acteur américain Joseph Tapley Dougherty, qui double Porky Pig en version originale, est un vrai bègue. Et c'est pour cette caractéristique, en effet, ouais, qu'il a été pris pour ce rôle. Mais en 1937, son bégaiement a pris de l'ampleur et il était difficile pour lui de continuer le doublage. Et c'est le célèbre doubleur Mel Blanc qui a pris la suite en 1937, puis passé le relais à son tour à quatre autres doubleurs, dont le dernier reste Bob Bergen depuis 1990. En France, c'est le doubleur Michel Mellard qui prête sa voix à notre cochon animé. Avant de vous laisser, amis de la pop culture, je vous invite à écouter la chanson de Porky Pig, alias The Notorious P.A.J., qui interprète tout en rappant dans le film Space Jam 2, Nouvelle Ère.
Hey Porky, fry him.
Fry him? Me? Show him who you really are, Notorious P.I.G. Oh, oh boy. Here goes nothing. What up? It's Porky Pig. They call me P-double-L-G. Step to me. He don't want no trouble.
Yeah.
I was famous before the internet. Since 1935, I've been getting respect. This pig is lit. I'm super legit. Every time I'm out in public, people asking me for pics. You, nobody knows you when you walk the street. How your last name, rhythm, and you're still off beat. From the beginning to the end, I'm here for all the smoke. Your squad ain't all star, your squad is all jokes. And just with one bar, most famous of all quotes. This battle is now over, but that's all, folks.
Oh!
Yeah, Porky!
That's all, folks! Get off the stage!
Enfin, Stani a choisi l'émission la plus écoutée de 2025, La Chocolatine. Oui, c'est l'émission la plus écoutée.
Ah oui, je crois que ça m'a beaucoup plu.
De 2025.
C'est écouté dans toute la France.
Mmh. Et même ailleurs.
Oui.
C'était le thème du 12 novembre. Comment est abordé le thème de l'émission sur le petit écran?
Je vous dis à plus les sérivores pour découvrir ou redécouvrir toujours plus de séries.
Enquête de Stani.
Ah, notre Stéphie, elle est jolie. D'où tu viens?
C'est Stani.
Stani, on t'encourage. Stéphie, Stani, Stéphanie, qui c'est jolie.
Pain au chocolat ou chocolatine, tout dépend de l'endroit où on se trouve, et ça se confirme dans les séries. Chacune choisit clairement son camp en fonction d'où se déroule l'action. Dans la série Netflix créée par Darren Star et déjà devenue une référence, Emily in Paris, qui se situe donc sans suspense à Paris, du moins pour les premières saisons, on penche donc forcément du côté du pain au chocolat. 4 saisons, 40 épisodes d'environ 30 minutes depuis 2020 sur Netflix donc, mais toujours en production. On trépigne d'ailleurs d'impatience de découvrir la 5e saison dès le 18 décembre. Encore un peu de patience donc avant de retrouver notre héroïne Emily Jane Cooper, interprétée par la pétillante Lily Collins, jeune experte en marketing de Chicago aux États-Unis qui déménage dans notre belle capitale suite à une promotion professionnelle. Chargée de représenter sa boîte et d'apporter une vision américaine au sein de l'agence de marketing française Savoir suite à son rachat, pas facile pour Émilie de s'adapter à la vie parisienne et aux mœurs françaises. C'est un choc culturel et un défi quotidien pour elle. Il y a pourtant une chose à laquelle elle se fait très vite, la gastronomie. Dès le premier épisode, la jeune femme se rend dans la boulangerie juste en bas de chez elle et se laisse tenter par une de nos spécialités, un pain au chocolat, vendu par une boulangère pas particulièrement aimable qui la reprend sur sa prononciation.
Mademoiselle, bonjour. Pain au chocolat. Un. Pas une. Un pain au chocolat. Ce sera tout? euros 40. Eh ben, on n'est pas rendu. Merci, have a bon journée. Une, pas un, une bonne journée.
Émilie se filme ensuite pour son compte Instagram en train de déguster ce combo beurre plus chocolat en commentant « Oh my god !» comme si c'était la meilleure chose qu'elle n'avait jamais mangée. Une scène devenue culte au point que bon nombre de touristes et influenceurs venus du monde entier se sont amusés à tester le fameux pain au chocolat de la fameuse boulangerie du 5e arrondissement et à reproduire la scène. Mais l'engouement provoqué par la série, connue pour vendre du rêve plus que de coller à la réalité, et c'est peut-être justement ce qui fait en partie son succès, a malheureusement fini par se retourner contre la boulangerie puisque beaucoup de clients venus de loin exprès et qui s'attendaient à goûter quelque chose de vraiment exceptionnel ont finalement été déçus du pain au chocolat qui, aussi bon soit-il, reste un pain au chocolat. À moins que ce ne soit plutôt une chocolatine. C'est en tout cas le parti pris clairement affiché dans l'excellente mini-série policière franco-germano-belge de France Télévisions Surface, tournée en région Occitanie, d'après le best-seller d'Olivier Norek. Une saison 6 épisodes de 52 minutes diffusée en septembre 2025 à retrouver sur la plateforme France.tv. Affecté dans le commissariat de la petite ville fictive d'Avalon, dans l'Aveyron, en Occitanie donc, après une intervention qui a défiguré la moitié de son visage, la capitaine de police parisienne Noémie Chastain, incarnée par la formidable et bien trop rare à l'écran Laura Smet, voit sa mission de convalescence forcée prendre une sombre tournure. Alors qu'elle devait faire un rapport sur l'activité du commissariat en vue de son éventuelle fermeture, elle se retrouve soudainement plongée dans une vieille affaire de disparition d'enfants lorsqu'un fût contenant un jeune squelette remonte à la surface du lac barrage artificiel créé il y a 25 ans et au fond duquel repose l'ancien village englouti. Dans le troisième épisode, on assiste à un combat des régions autour de la viennoiserie qui déchaîne les passions. Alors que la capitaine, pourtant parisienne, se voit proposée par la jeune OPJ, officier de police judiciaire du commissariat, originaire de la région, des viennoiseries venant de la boulangerie de ses parents, son autre collègue, transfert de la brigade des stupes de Marseille, se précipite pour prendre un pain au chocolat. Le malheureux Noémie, avec le franc-parler qui la caractérise, s'empresse alors de le reprendre. Et le mieux, c'est peut-être encore de vous faire écouter l'extrait.
Tenez, je viens de la boulangerie de mes parents.
Pas les deux minutes. T'as pris des pains au chocolat ?
Vous en aurez quand vous direz chocolatine comme tout le monde.
Ouais, mais...
Oh, je sais que j'insiste, mais vraiment, je l'adore.
Alors que vous soyez du nord ou du sud, que vous ayez l'habitude de dire chocolatine ou pain au chocolat, après tout, il s'agit du même produit. Le plus important est peut-être de s'adapter en fonction de l'endroit où on se trouve, surtout si on veut être servi. Car l'essentiel n'est-il pas de pouvoir savourer cette délicieuse viennoiserie à la base d'origine autrichienne quand on en a envie ? Quant à savoir où trouver les meilleurs, ça, c'est un autre débat. Et c'est sur cette note gourmande, en espérant vous avoir mis l'eau à la bouche, que je vous dis à plus les sérivores pour découvrir ou redécouvrir toujours plus de séries.
Et ce best-of 2025, c'est déjà fini.
Oh non !
Si vous avez loupé le début de l'émission ou si vous voulez la réécouter, l'émission est rediffusée sur de nombreuses radios dont vous retrouverez la liste sur Big Bang
Station.fr.
Alors je tenais à remercier Petit Manu pour ses chroniques étonnantes.
Bah avec grand plaisir, bah des fois on hésite. Et puis on peut dire, il y a quelqu'un qui nous aide, qui est venu, notre cher ami Valentin.
Valentin, effectivement, pour l'aide à l'écriture.
C'est vrai, Valentin et toi-même. Alors c'est vrai qu'ils ont fait ça en famille. Hein, on lui dit un grand bonjour amical à Valentin. Coucou amical et merci de tes chroniques, des explications.
Je tenais aussi à remercier Kevin pour ses chroniques enchanteresses.
Merci, c'est un plaisir. Merci Didier, merci à tous.
Je tenais aussi à remercier Stani pour ses chroniques informatives. Eric pour ses chroniques pétillantes.
Oh, exactement. Et Roshi, ça, on pourrait dire.
Bonari pour ses chroniques touchantes.
Merci.
Et Marie-Christine pour ses chroniques justes.
Et un peu sévère, mais réglementaire. Ça vous permet d'avoir des limites.
Laura, qui monte l'émission, Sylvie qui s'occupe des partenariats.
On peut même remercier la radio aussi.
La radio, IDFM et toutes nos radios partenaires, voilà, il y en a plus de 25.
Et merci à Didier.
Ah oui, on va remercier Didier parce que pour tout ce qu'il fait, je parle peut-être un peu trop.
Salut à toutes et à tous, la semaine prochaine on se retrouve pour un nouveau thème, le tout premier de 2026, ça sera tout simplement la nouvelle année, la bonne année 2026. Bah oui, voilà. Salut à toutes et à tous, bonne fête de fin d'année, amusez-vous bien et à l'année prochaine.
Avec grand plaisir.
À l'année prochaine, salut.
Bonne nouvelle année à tous, amusez-vous bien.
Okay, let's stop.